et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous sommes une partie en studio et une partie en extérieur sur l'île de la Réunion avec nos invités. En studio donc avec un auteur belge qui fait une analyse de sa propre personne à 44 ans en comparant ses données à celles des statistiques mondiales. Bonjour Charlie Dalwart.
Bonjour.
C'est le livre le plus étonnant de la rentrée littéraire. Vous avez passé au crible vos 44 dernières années en les comparant à l'évolution des autres. Tout le monde peut se joindre à vos analyses. Du coup, comment vous sentez-vous, Charlie, après avoir fouillé en vous comme ça ?
Assez relaxé, parce que ça c'est fait. Non, c'est vrai, c'est le propre d'un bilan, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, c'est derrière soi.
C'est un bilan de santé quasiment ?
C'est un bilan pour comme déposer une valise pour faire la suite du chemin un peu plus léger.
Bon, et vous qui nous écoutez, où en êtes-vous dans votre vie ? Quelques éléments de réponse pour tous dans quelques minutes. Direction le port de Saint-Pierre, donc à La Réunion, pour une grande séquence sur place avec nos invités, le français Patrick Deville et le mauricien Carl de Souza. Le premier publie le 7e volet de son voyage autour du monde et le second a obtenu ce week-end le prix littéraire du Salon du Livre Athéna qui se tient tout le week-end ici sur l'île de la Réunion. Et puis ce sera le retour de notre séquence Livre de Poche avec notamment le dernier roman en date d'Alama Bankou.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Pour le Canada, c'est Jérémy Lagniel qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou et le froid s'installe peu à peu du côté de Montréal.
Tranquillement, c'est l'automne, il faut en profiter. Faut
en profiter. Voilà. Pas si loin de vous, finalement, il y a notre libraire française de Martinique. Bonjour Anne-Rosine Vosa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Fort-de-France. Il fait beau et chaud, je suppose, dans la librairie Le Papillon Bleu.
Parfois il pleut, parfois il y a du soleil. C'est un peu changeant, le temps change.
Mais bon, il fait 30 degrés, quoi, 25.
Oui, il fait très très chaud.
Donc tout va bien.
Ça, 33-34.
Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Et en Belgique, on retrouve Déborah Damblon, qui est libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Charlie Dalwart parle, je crois, des licornes, d'ailleurs, à un moment dans son livre.
Bah oui.
Ouais. Il me regarde avec des yeux bizarres. Je vous assure, vous citez les licornes.
Ah oui, c'est vrai. Une fois.
Oui, c'est vrai. Bon, merci à tous les quatre d'être avec nous tout au long de cette émission. Et avant d'aller retrouver Patrick Deville et Carl de Souza en extérieur sur cette île de la Réunion à Saint-Pierre où se déroule en ce moment le Salon du Livre Athéna, on est en studio avec un auteur belge que les auditeurs de la librairie francophone connaissent bien. Charlie Dalwart, après Circuit, plein de romans normaux, concrets, vous publiez le livre le plus étonnant de cette rentrée littéraire, Data Biographie, qui raconte avec des textes, des graphiques et des inventaires chiffrés les 44 ans de votre vie. Et vous vous posez des questions sur tout le temps.
Oui. Et donc j'ai commencé à chiffrer, à faire des ratios. Des choses assez simples, mais qui me parlaient, comme le nombre de spermatozoïdes produits et le nombre d'enfants que j'ai eu.
Ouais.
1 billion contre 3. et je trouvais que tout d'un coup, on arrivait à une approche assez brute de l'existence.
Donc du coup, on se prend en jeu parce qu'on s'analyse soi-même, on coche des cases, comme vous, sur nos phobies, nos jours passés à faire du sport, à avoir des relations sexuelles, au nombre de personnes rencontrées, à ce qui nous angoisse ou préoccupe le plus. On a une vague idée, vous, apparemment, tout va bien, hein, parce que faire le bilan de sa vie, c'est pas si anxiogène que ça.
Je trouve pas. Je trouve qu'en fait, ça sert vraiment à voir, à mesurer la différence entre l'image qu'on se fait de soi-même et qui on est vraiment. Et je trouve qu'une fois qu'on le fait, alors il faut peut-être une sorte de sérénité pour le faire. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait de le faire qui provoque la sérénité, mais au bout du compte, j'en sors justement plutôt relaxé de ça.
Alors, vous avez vécu 385 440 heures. Statistiquement, il vous en reste 310 000, j'arrondis, hein, parce que vous êtes plus précis que ça. 310 000 à vivre. Vous avez voyagé légalement en transport public 7476 fois, 102 fois sans ticket. Vous avez fumé 189 851 cigarettes et vous avez mis 4959 couches. Ça peut durer longtemps et ces chiffres sont fantasques, bien sûr, Charles-Emmanuel. Car c'est votre prénom, Charles-Emmanuel.
Ces chiffres sont assez réels, moi je trouve, en fait. J'ai vraiment pris le temps de trouver des formules et j'ai même, à la fin du livre, oublié tous les chiffres que j'avais trouvés pour les recommencer pour être sûr. Alors parfois, je galérais sur certains chiffres. Mais ce qui m'importait, c'était la masse. Que la masse soit juste. Mmh. Et donc vraiment, j'ai fait l'effort et je crois que je suis assez proche. Alors pas au chiffre près, mais non. Ça correspond.
Non, ça correspond à peu près. Ouais. Vous avez volé aussi dans votre vie, à Charlie Delwart.
Très peu de choses. Et justement, ces graphes-là, comme le nombre de transports avec ou sans ticket, mesuraient mon faible taux de délinquance.
Ouais, 3 verres de vin, vous avez volé. Des verres vides ou des verres
Des verres vides.
Ah, vous volez des verres de vin?
Non, mais en fait, il y a des volés par inadvertance.
Non, mais là, c'est pas par inadvertance. Là, c'est intentionnellement, vous le dites.
Ah, je crois, oui. Parce que parfois, on se retrouve avec un verre vide et on sait pas pourquoi.
Par inadvertance, dans la poche.
J'ai dû peut-être voler, oui, c'est vrai.
Donc, vous avez 3 enfants, vous l'avez dit. Ce qui fait de vous plus un Polynésien qu'un Européen. Exactement. Expliquez-nous.
À Paris, le taux de fertilité, c'est 1,54.
En Europe, oui.
En Europe, c'est
1,6.
Et 3, c'est plus Tuvalu, la Polynésie. Et donc, ayant 3 enfants, en fait, je trouve que ça explique des choses, en fait. Et j'aime bien cette irruption de mythologie personnelle dans mon quotidien. C'est-à-dire que si on se considère soi-même comme un Polynésien, du coup, je sais pas, on gagne quelque chose à vivre. Enfin, voilà, je sais pas, c'est une petite
image. Vous gagnez quoi? Vous êtes comment en Polynésien?
Je sais pas, c'est déjà les vacances, en fait.
C'est vrai?
Ouais.
Vous dites quelque chose de très sensé, de très beau sur la construction d'une famille, Charlie Delwart. Vous écrivez « Quand on crée une famille, on crée une forme de chaos, un ensemble expansif, mouvant, protéiforme, évolutif. Depuis 2 ans, je prends en photo ce chaos l'été. Il y a de la beauté, vous dites, à avoir créé un chaos comme ça. »
Ouais, je le remarque d'autant plus au 3e enfant, où là vraiment ça devient moins maîtrisable, moins gérable. Mais il y a comme tout une organisation spontanée. C'est la même organisation qu'il s'agit de trouver dans Data Biographie, en fait, avec les chiffres. C'est de se dire, tout ça est né de manière très chaotique. Ma vie, chemin faisant, elle a répondu en partie à des choses précises, mais d'autres se sont faites comme ça. Et en les retraçant, on trouve un ordre aux choses.
Et on ne peut pas être parent sans faire d'erreurs.
Et on en fait tout le temps.
Et tout le temps.
Ouais.
Et en plus, plus l'âge avance des enfants, plus on est susceptible d'en faire.
Exactement. C'est de la probabilité de nouveau. C'est quelque chose de
mathématique. C'est votre probabilité ou c'est...
C'est celle de tous.
Ah ouais.
Ouais.
Vous l'avez constaté alors?
Mais j'en suis sûr. Non, c'est vrai.
C'est vrai. Il y a cette histoire que vous racontez à propos d'un Japonais qui laisse sur le bord de la route son fils pour lui donner une leçon. Il s'appelle Takuyuki Tanuka. Racontez-nous cette histoire incroyable et qui est réelle en plus.
Oui, ça avait fait le tour des journaux nippons, mais pas seulement. Et donc, il a voulu, je crois que son enfant jetait des cailloux sur les voitures et puis il se tenait mal en voiture. Et il s'est dit, je te dépose près de la forêt et je pars. Ce qui est assez traumatisant en soi, mais il a fait 500 mètres, il est revenu. C'était quand il est revenu, il n'y avait plus d'enfants. Et c'était au bord d'une forêt, il faisait moins 4 la nuit, il y avait des ours. Pendant 4 jours, il l'a cherché avec l'aide des pompiers, de la police à cheval.
183 secouristes au total.
Oui, exactement. Donc il a mobilisé ça tout le monde. Et puis après ça, on a retrouvé son fils qui s'était abrité entre 2 matelas dans une caserne de pompiers. Et donc il s'est excusé et son fils l'a pardonné. Mais j'aime bien dans cette idée d'erreur parentale qu'on peut faire ou éducative, de savoir qu'il y a comme des anti-mentors. Ouais. Voilà, et je trouve que à faire une biographie de soi, qui reste une biographie de quelqu'un de lambda avec une vie sans fait saillant, après ça, ça constitue autant notre vie, ce qu'on peut faire comme erreur, ce qu'on peut faire comme réussite aussi, mais donc on a là-dedans comme des bornes, des limites.
Et ça se quantifie alors du coup?
Ben, on peut quantifier. Oui, j'ai quantifié dans le livre le nombre de fois où je me fâche sur mes enfants et le nombre de fois où j'en suis désolé, et inversement, ou comme le nombre de fois où j'ai rangé la chambre de mes enfants et le nombre de fois où eux l'ont fait. Et on arrive à 0.
Oui, pour vous.
Pour eux.
C'est une bonne idée, ça. Ça donne des idées, ça. De faire ranger sa chambre par les enfants, c'est pas mal.
Et du coup, vous arrivez justement à c'est ça, une sorte de comment est-ce qu'il faut envisager la suite maintenant?
Bon, allez, les libraires ont lu votre roman, Charlie Delwart. Enfin, roman. Data biographie. La France ou la Suisse? On commence par qui, tiens?
La Suisse.
Allez, Dominique Bressoux. Allons-y.
Oui, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri en lisant ce livre avec ces statistiques que je crois quand même quelquefois un peu hasardeuses. Il vous resterait, d'après vous, 310 104 heures à vivre et donc 37 000 fois à appuyer sur l'interrupteur de la salle de bain par trouble obsessionnel compulsif. Ou pas ? Ce qui pourrait paraître en fait extrêmement réducteur pour décrire une vie devient au contraire champ de tous les possibles et c'est ce qui rend vos écrits profondément humains et attachants. On a vraiment envie de vous imiter et de mettre sa propre vie en chiffres juste pour voir.
Et on l'a fait quand on a lu Charlie Delwart. On a passé un week-end terrible à cause de vous. Anne-Rosine Vosa en Martinique, qu'en pensez-vous?
Alors moi, j'ai trouvé ce roman très original. Au début, j'étais un peu sceptique, hein, parce que je suis vraiment hermétique aux chiffres en général et aux statistiques en particulier. Et je m'attendais à un texte très rébarbatif, mais j'ai vraiment été happée par cette autobiographie analytique. Charlie Delwart a réussi à faire parler les chiffres, il a réussi à les faire interpréter et traduire son propos avec succès et humour.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. On rit beaucoup, Charlie Deloire. On constate aussi avec vos graphiques que vos préoccupations à 5 ans reviennent plus à 40 qu'à 20 ou 30. Je m'explique. On vit pleinement sa vie à 5 ans. Ça, vous le montrez. Comme à 40. Et on est autant fidèle en amitié et attaché à la famille à 5 ans qu'à 40. Et c'est vrai, ça.
Oui, je trouve qu'il y a
quand
une forme...
on réfléchit, c'est vrai.
Non, mais c'est parfois, en fait, les chiffres servent à valider des intuitions. C'est par exemple, il y a un graphique sur la place du ça, du moi et du surmoi à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30, 40. Et je remarque que le ça, le côté pulsionnel, pulsif, reprend le dessus. Mais comme aussi une manière d'être dans le présent, d'habiter le présent, qu'on perd à 20 ans, à 30 ans, ou le rapport qu'on a au bonheur, simplement.
Votre livre fonctionne comme ça, par fragments, un peu comme des gammes de piano. Vous avez fait vos gammes, en fait, avec ce livre. Jean-Sébastien Bach.
Ouais, ça, je peux pas interrompre.
Ah bah si.
Non mais...
Vous l'avez choisi comme BO du roman.
Oui, parce qu'en fait, je suis...
Joué par Glenn Gould.
Exactement. Je suis fasciné par ce pianiste qui est tout penché sur son clavier, qui passe des heures sur le périphérique dans une voiture surchauffée avant de... Et qui a refusé de faire des concerts parce qu'il trouvait que la qualité d'écoute de l'auditoire n'était plus assez bonne par rapport à son jeu. Et surtout, en fait, moi, j'ai besoin d'écouter de manière répétée les choses. Ça crée une sorte de fil continu.
C'est un peu ça votre livre, Charlie Deloire. Cette musique-là.
Oui. Non, c'est vrai, il y a un
cette
côté mathématique.
Cette temporalité-là, hein, c'est vrai. Alors vous êtes aussi attaqué à ce qui vous inquiétait, vos appréhensions. Comme être interviewé à la radio pour la première fois, c'est plus difficile que ce que vous aviez imaginé, contrairement à faire l'amour pour la première fois.
Ouais.
Beaucoup plus facile que ce qu'on imagine.
Ou faire ses lacets, qui est plus compliqué que ce qu'on imagine aussi.
Et la radio, c'est quoi le problème ?
Non, il n'y avait pas de problème, il y avait le fait de quantifier l'appréhension qu'on a et la dureté ou non de la réalité une fois qu'on l'a vécu.
Ouais. Et ce sont les phobies qui guident vos vies, nos vies, vos vies. Oui. Lapsus, vos oui. différentes vies.
Je non, suis c'est sûr que vous avez plusieurs vies. Ou la maîtrise des phobies.
Ouais. Vous les maîtrisez ces phobies ou pas ?
Aujourd'hui, je trouve, oui.
Ouais. En fait, grâce à ce livre ?
Non, le livre est grâce à la psychanalyse, beaucoup, qui m'a beaucoup aidé.
Vous avez fait 10 ans de psychanalyse.
Oui, je l'ai envoyé à mon psy il y a 2 semaines, on verra bien. J'ai juste eu l'appréhension, c'est qu'ils me disent « vous avez rien compris
». En fait, vous avez fait votre crise de la quarantaine en ayant peur de la cinquantaine.
J'ai décidé de faire une crise de la quarantaine productive.
Ouais.
Et bon. Pas destructrice.
On va voir si c'est productif pour les deux autres libraires. Pour conclure, on va leur laisser le mot de la fin. Jérémy Laniel pour le Canada, par exemple.
Il y a quelque chose d'imminemment sympathique vraiment au projet de Deloire. On avance par curiosité dans ce livre. On poursuit pour son intelligence, son dynamisme, son ingéniosité. Jamais le projet n'est plombé par son ambition, ce qui est quand même pas rien. S'il n'a pas la qualité littéraire d'un grand livre, il y a quand même la singularité de ce genre de petit bouquin qui va nous accompagner longtemps.
Déborah Damblon pour la Belgique. Qu'en pensez-vous ?
Bah oui, moi j'ai trouvé ça incroyable, qu'est-ce qu'il y a à faire, hein, comme on dit chez nous, n'est-ce pas Charlie ? Enfin, dans mon bled, on dit ça. Mais d'abord, bon, quelle idée formidable, quelle idée d'avoir eu cette idée. Et puis bon, moi les chiffres bof, hein, c'est comme Anne, j'aime pas tellement, mais ils ont quand même un petit côté objectif qui permet de vraiment mesurer les choses. Et moi, comme vous tous, eh ben, je joue à ça maintenant, depuis que j'ai lu votre livre. Et cette façon dont vous servez de vos données personnelles pour arriver à toucher à l'universel et à nous pousser à regarder le monde d'un autre œil, ben j'ai envie de dire bravo. Vous m'avez chopé et je ne me lasse pas de parler de votre bouquin à tout le monde et de le feuilleter parce qu'il reste à côté de moi.
Ben merci, c'est gentil.
Vous avez séduit tous nos libraires, Charlie Deloire, avec un livre complètement improbable.
Donc ce sera 4 sur 4.
4 sur 4, c'est ça. Nombre de libraires qui ont Exactement, été séduits ouais. par mon ouvrage. Vous êtes complètement fou, hein, Charlie.
Non mais j'aime.
Si, vous êtes un peu fou.
J'aime bien la littérature quand il y a une démarche qui compte autant que le résultat. Et je trouve que là, il y avait un moyen. Il y a quelque chose. Ça... C'est surtout qu'en fait, 44 ans, c'est une vie. Et c'est la vie de la plupart des gens qui n'ont pas découvert le pôle Nord, qui se sont pas échappés d'une geôle au Sahel. Et donc il y a de la matière.
Bon, vous allez continuer du coup ?
Je verrai après. Enfin, normalement, la suite devrait avoir lieu à 88 ans, si je suis toujours
D'accord.
là.
D'accord. Bon, on en reparle. Si on est encore là, on en reparlera. Merci beaucoup, Charlie Deloire.
Merci à
Data
vous.
Data Biographie est parue chez Flammarion. Dans un instant, on se retrouve dans les rues de Saint-Pierre de la Réunion. Nous sommes sur place à l'occasion du salon Athéna qui se tient tout le week-end. Nous serons avec Patrick Deville et Carl de Souza. On va se mettre dans l'ambiance avec le groupe réunionnais Graines Sémées qui chante Poussière en duo avec le Rwandais Gaël Faye.
J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri ? Je
je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Djobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur.
Un point de couleur.
Partout, cette même poussière dans l'air. Partout, partout, cette même poussière dans l'air.
Cheveux des grandes villes, aux tables d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout cette même poussière dans l'air.
Envie de digérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air. Dans les vents chauds qui coiffent les incendies. Dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois. Cette même poussière dans l'air.
Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, Bulbuli vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol, vol, vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, si la terre Maloya.
C'était le groupe réunionnais Graines Sémées avec Gaël Faye.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et nous voici donc arrivés sur le port de Saint-Pierre, ici à La Réunion, pour cette séquence spéciale et grand format. Face à nous, il y a le lagon de la plage de Saint-Pierre, avec les rouleaux que vous entendez probablement derrière moi, puisqu'il y a la barrière de corail, évidemment, qui permet d'avoir cette belle plage de Saint-Pierre. Avec nous, il y a Carl de Souza, qui a publié un livre qui vient de recevoir un prix ici. Bonjour Carl.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors décrivez-nous cet endroit. On s'est un peu abrité. On est assis par terre, pour tout vous dire,
oui.
Parce qu'il y a une grande jetée qui s'avance sur la mer et on est tout au bout de la jetée et il y a beaucoup de vent.
Il y a beaucoup de vent, il y a l'océan Indien devant nous, il y a un soleil face à nous qui nous éblouit un peu. Et il y a l'ambiance de ce salon de Saint-Pierre. C'est un concentré d'auteurs, d'éditeurs, de publics, d'étudiants, de jeunes qui viennent là pour s'abreuver à la littérature.
Alors, vous venez d'obtenir le prix littéraire du Salon du Livre Athéna, qui se tient ce week-end, donc, à Saint-Pierre, dans les jardins de la plage. C'est juste face à nous, on voit les tentes, hein, là d'où nous sommes. Votre roman, L'année des cyclones, est paru aux éditions de l'Olivier. Et vous êtes venu en voisin, car vous êtes mauricien, Carl.
Je suis venu en voisin. C'était plus compliqué que vous le pensez. Nous avons voulu atterrir ici, à Saint-Pierre. et notre vol a été détourné pour des raisons techniques. Oui, on est tout proche, mais en même temps assez éloigné, dans le sens que nous avons des histoires différentes, nous avons des cultures qui sont comparables, mais aussi permettant un échange, parce que justement différentes, et des peuples, des îles, ce qui me fait toujours me sentir à l'aise dans cet endroit et dans ce salon en particulier.
Alors vous racontez une tragédie familiale dans votre livre. Il y a deux lieux importants, les champs de canne à sucre. Il se passe quelque chose de grave dans cette famille, dans ce champ de canne à sucre. Et puis il y a aussi la mer. Ce sont deux lieux qui sont fondateurs pour vos histoires, pour vous aussi, Carl de Souza.
Ce sont deux lieux qui sont présents dans pratiquement tous mes romans. La frontière entre la mer et la terre m'intéresse particulièrement. C'est comme les frontières que nous avons dans nos vies et entre le passé, le présent et le futur. Le présent m'intéresse de plus en plus, mais pour cela, il faut que je fasse référence au passé qui est celui d'une famille. Je ne dirais pas de ma famille parce qu'elle est toujours embuée dans une espèce de fausse fiction
Il y a un peu de vous quand même alors.
Ah, il y a énormément de moi parce qu'elle se situe dans un endroit où j'habite actuellement, qui est mon piton, mais elle est inspirée de choses qui nous viennent du plus loin de notre histoire familiale, oui.
Il y a Hans, le plus jeune, qui observe comme ça ses aînés. Il flâne, il est plein de fantaisie, mais à l'âge adulte, il va commettre un acte irréparable qui va bouleverser sa vie. On n'est jamais à l'abri d'une faute dans sa vie, Carl de Souza, même quand on habite sur une île, dans un contexte favorable.
Je ne suis même pas sûr que ce soit une faute. Je crois que c'est la vie qui nous pousse à des actes. Mais c'est un acte qui est assez mystérieux, qui va faire basculer toute sa vie et qui va faire aussi... qui va influencer toute la vie de la famille.
Les lieux sont très importants, il y a l'insularité aussi, qui est en filigrane de votre récit, la propriété sucrière en premier. Il n'y a donc pas besoin, finalement, de vivre sur une île, comme ici, sur l'île de la Réunion ou sur l'île Maurice, pour connaître l'insularité. Un simple lieu peut suffire ?
Je crois, oui, je crois bien. Je crois qu'on peut s'isoler n'importe où, et je crois que cet isolement est absolument nécessaire aujourd'hui à notre survie, j'allais dire universel. C'est dans la mesure où il y a un concentré d'humanité dans une île et que les gens se côtoient, que nous avons des interactions qui sont, pour l'optimiste que je suis malgré tout, extrêmement productrices d'avenir pour l'humanité, mais aussi de friction forcément.
On va se lever, on va aller vers la plage, Carl de Souza. On s'est abrité, on va essayer d'affronter le vent à nouveau. Que vous entendez derrière, et je vais vous faire entendre quand même les rouleaux derrière moi. Bon, allez, on va se diriger par là-bas, Carl, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Imaginez le rêve des surfeurs, par exemple, avec ces rouleaux derrière, c'est vraiment ça. Voilà, il y a le port de Saint-Pierre devant lequel nous passons, puisque cette digue, évidemment, longe le port,
oui,
protège le port aussi. L'île intense, c'est l'île de la Réunion avec du vent, avec les éléments naturels, c'est normal. Le son est dégradé, mais c'est ça la vie de la Réunion aussi, Carl de Souza. Et puis face à nous, on a le relief de cette île, car il y a évidemment...
Oui, cette chaîne de montagnes qui est devant nous et des nuages qui sont plus bas que la montagne. Sinon, c'est fantastique, oui.
Et donc cette plage de Saint-Pierre, là, juste en face, on va être un petit peu plus à l'abri pour terminer cet entretien. Voilà, on arrive sur cette plage avec beaucoup de morceaux de coraux qui forment finalement la plage.
Oui, ce sont des coraux qui proviennent des récifs qui sont à côté là et qui sont, j'allais dire, charriés, mais plus poussés par la puissance des vagues jusqu'à la plage, jusqu'au haut de cette plage.
Et on n'a pas le droit de les ramasser, hein, faut le souligner.
Heureusement.
Voilà, on n'a pas le droit de les ramasser parce que c'est ça qui construit justement les plages, certaines plages en tout cas de l'île de la Réunion. Au lieu d'avoir des galets, on a des morceaux de coraux. C'est assez original. Voilà, on est sur la plage entre l'eau et les plagistes qui font des signes d'ailleurs certains parce qu'ils nous ont un peu repérés, hein, parce qu'on est carrément au milieu. On a les touristes et puis évidemment les habitants de l'île qui sont là au bord de l'eau. On est sur ce port de Saint-Pierre, Carl de Souza, qui est derrière désormais. Il y a l'un de vos personnages qui, elle, va remuer le passé, car elle veut comprendre ce qui s'est passé dans sa famille. Et elle va faire la rencontre d'un pêcheur. Et à partir de là, quand elle part en mer avec lui, elle est plus apaisée. Ça lave un peu la mer. Ça lave les esprits.
Finalement, oui, pour peu qu'on puisse la respecter et qu'on puisse y aller, j'allais dire nager. Nager avec les requins, pour rester dans le thème de nos conversations précédentes.
Vous aimez beaucoup les requins.
Ah oui, 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 absolument.
Vous en avez commandé, mais on n'a pas réussi à les faire venir.
On a essayé, oui. L'organisation a fait de son mieux, mais c'est platement excusé par la suite, oui.
Bon, il y a les cyclones aussi. Un cyclone qui un jour va dévaster l'île Maurice. Un cyclone qui peut tout emporter. C'est vrai que ces îles de l'océan Indien, comme celles de la Caraïbe, elles sont fragiles. Le danger guette avec ces fameuses années de cyclones.
Alors, les cyclones pour Maurice, c'est, et pour la Réunion, et pour nos îles en général, nous sommes sur la trajectoire des cyclones. Vous disiez que la mer lave, mais les cyclones lavent aussi des mémoires. Les cyclones ont cause ce qui fait la végétation de notre île. Le bois qui vient des Mascareilles est un bois très dur qui avait attiré les premiers colons hollandais qui venaient pour le bois et pas pour autre chose. Et ces mêmes cyclones qui forgent l'île et sa flore, ces mêmes cyclones aujourd'hui font que les populations doivent rester solidaires et accepter leur humanité et accepter qu'ils sont aussi sujets ou assujettis au bon vouloir du climat.
Vous entendez les enfants derrière nous sur cette plage de Saint-Pierre et probablement la mer, les rouleaux derrière. On était tout près tout à l'heure au bord de cette jetée. Et là, la mer qui s'avance un petit peu vers nous. On va se reculer, Carl de Souza, et on va terminer avec cette île Maurice, qui est une île résistante. Je dirais même une île de la résistance. Jean-Marie Gustave Le Clézio en parle très bien dans son roman Alma, où il revient sur ses origines et sur cette île aussi, qui a fait le choix de la langue française également. Une île qui fut française, qui a été anglaise ensuite, et on parle le français, vous en êtes l'illustration vous-même, parce que vous parlez et vous écrivez en français.
J'écris en français, mais c'est une île aussi qui s'assume de plus en plus. J'écris en français, en anglais et en langue créole, cette langue qui a été longtemps décriée du temps, alors qu'elle était vraiment la chair même de cette île, l'élément unificateur qui faisait que toutes les sections de la population pouvait s'exprimer. Ça a certainement ses origines dans l'esclavage, des origines extrêmement dures, mais en même temps, aujourd'hui, ce sont des facteurs qui s'assument, ce sont des richesses qui s'assument, et le côtoiement...
Qui s'ajoutent,
oui. Qui font aujourd'hui cette patte dans laquelle vivent les populations des îles.
On va quitter cette plage. Merci beaucoup, Carl de Souza. L'année des cyclones est parue aux éditions de l'Olivier et c'est le prix Athéna 2019 ici à La Réunion. Vous restez avec moi, on va entendre nos libraires tout de suite.
On y va.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors on arrive dans les jardins de la plage avec les douches publiques qui sont juste à côté pour se dessaler. Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires depuis La Réunion. On part tout de suite au Canada à 14 670 km, Carl de Souza, c'est pas à côté, avec un coup de cœur dans le rayon des livres pour la jeunesse, Jérémy Laniel.
Absolument, un magnifique conte jeunesse, Gâteau aux pommes de Geneviève Godbout. C'est illustré par Geneviève Godbout, une illustratrice incroyable au Québec, publiée à la Pastèque, une jeune fille qui s'en va faire un gâteau aux pommes. Quoi de plus automnal que ça? Elle quitte dans la nature, elle va chercher son miel d'abeille, elle va chercher son lait, elle va chercher ses pommes une à une pour faire ce gâteau. On a l'impression d'avoir les odeurs, les effluves du gâteau à force qu'on lit ce magnifique conte pour enfants. Donc vraiment, Gâteau aux pommes de Geneviève Godbout, publié à la Pastèque, ça vaut le détour.
Et vous avez tout dit, vous êtes parfait. Merci Jérémy. On va en Suisse avec un coup de gueule, Dominique Bressou, qui est à 8 975 km de moi, Dominique.
Tant que ça. Écoutez, là, je fais un coup de gueule sur les éditeurs pour changer. Il y a quelque chose qui m'échappe. On peut dire que les éditeurs, pas tous, mais la plupart, sont au taquet pour suivre l'actualité quand il s'agit de politique, nous infligeant au passage à chaque élection, par exemple, des bouquins que je trouve franchement peu intéressants. Aussi au taquet, d'ailleurs, pour suivre les modes en termes de développement personnel. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il n'y a toujours pas d'évolution pour les livres pour enfants ? Maman est encore à la cuisine, papa va travailler pour son petit garçon qui étudiera, pendant que la petite fille cherchera son prince charmant. Mesdames et messieurs les éditeurs, ce serait sympa de regarder un peu autour de vous.
C'est bien vu. Merci Dominique. Le rayon des essais à présent avec un coup de cœur en Martinique pour la France. Donc, Anne-Rosine Vosa.
Un gros coup de cœur pour les écrits stupéfiants, drogue et littérature aux éditions Robert Laffont de Cécile Gilbert. C'est un magnifique ouvrage qui fait l'inventaire des textes écrits depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours par des auteurs sous l'emprise de la drogue ou bien qui ont pris de la drogue comme sujet de leurs écrits. Et loin d'être un éloge de la consommation de drogue, ce texte est une autre façon d'écrire l'histoire littéraire. Et par ailleurs, je trouve le choix du titre absolument génial.
Écrit stupéfiant, drogues et littérature, vaste sujet aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Anne. Et enfin la Belgique, avec Déborah Damblon qui a adoré un roman sorti récemment. Déborah.
Mais oui, le nouveau Michel Claise sorti chez Genèse Éditions, Emmanuel. Et un nouveau Michel Claise, ben c'est toujours la promesse d'un très très bon moment de lecture, parce qu'on sait qu'on va se plonger dans une bonne histoire bien ficelée, et puis qu'on va découvrir un univers. Et bien dans celui-ci, Sans Destination Finale, on se fait aspirer par le quotidien des sans-abri, parce qu'on suit la vie de Monica, qu'on accuse d'avoir tué et volé sa tante. Et c'est à la fois palpitant, c'est humainement instructif, et puis c'est tout à fait bouleversant.
Et merci Déborah. Michel Claise, Sans Destination Finale, c'est aux éditions Genèse.
La librairie francophone. Émission spéciale.
Voilà, changement d'ambiance. On a quitté la plage et on se retrouve sur les hauteurs de Saint-Pierre, un peu en hauteur en tout cas, avec le marché couvert et un grand auteur qui est avec nous. Bonjour Patrick Deville.
Bonjour.
Merci d'être là en déambulation pour votre nouveau livre Amazonia, paru à la rentrée aux éditions du Seuil. Vous êtes l'un des invités d'honneur de ce 4e salon du livre Athéna. Et vous qui voyagez dans le monde entier, vous n'êtes jamais venu à La Réunion?
Eh bien non. Je voulais voir La Réunion. J'ai terminé le livre équatorial africain à Zanzibar. C'est ouais. Juste un peu plus haut. Ouais. J'ai fini Taba à Madagascar, qui est juste en face. Donc voilà, il y a une avancée dans l'océan Indien.
Là, on est au milieu des échoppes, des stands, avec beaucoup de produits, évidemment, de La Réunion qui sont là, la fameuse vanille, les épices, et puis plein d'objets de l'artisanat local. Ça vous inspire quoi, un marché comme ça, Patrick Deville ?
Ah, c'est magnifique. Enfin, un peu partout, mais particulièrement dans ce genre d'endroit ou ce genre d'île. Bon, j'avais une mission, je l'ai accomplie. J'ai acheté des sandalettes pour aller observer, oui. Pour aller observer les poissons du lagon.
Des tongs, vous avez acheté ?
Oui, 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 des tongs.
Mais pourquoi vous avez besoin de tongs pour aller observer les poissons, vous ?
Parce que cet après-midi, j'ai fait une tentative pour atteindre le lagon, que j'étais vêtu ainsi. Alors, vous n'avez pas l'image, mais...
Costume.
Voilà, ouais. Donc pas du tout, pas du tout ce qui plaît aux poissons des lagons.
Costume estival, quand même.
Craignant... Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, de lin et de probité candide. Mais enfin voilà, demain...
Il vous fallait la tenue adéquate. Donc
absolument.
Voilà, vous avez vos tongs en main, elles sont bleues, elles sont très jolies, et en plus vous les avez payées pas cher. Bon, vous vous êtes lancé dans un projet fou, Patrick Deville, le projet Abracadabra. 12 romans autour du monde, Amazonia est le 7e. Vous dressez le portrait historique et contemporain de notre monde, avec des personnalités historiques, mais aussi avec votre propre vécu personnel, parfois familial. Et vous dites que ce sont des romans sans fiction. Vous n'aimez pas qu'on vous raconte des histoires inventées ?
Si, bien sûr, je suis lecteur de romans et de la littérature, mais je n'invente aucun personnage, aucune date, ouais. Aucun événement, que c'est de la littérature si tout va bien, parce que j'essaie de les combiner de telle sorte et de les mêler à ma vie propre et à mes séjours et à mes vies parallèles en divers endroits du monde.
C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, par exemple, à déambuler dans Saint-Pierre avec ce marché couvert, vous pourriez en tirer une histoire ?
Oui, alors pour être honnête, je suis venu avec le projet d'un hypothétique chapitre. Je ne sais pas si je l'écrirai.
Voilà. Ouais.
Voilà.
pas sortir de ce marché parce qu'il est en train de fermer. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes ici à La Réunion, Patrick ?
C'est un séjour très bref, hein. Je suis arrivé hier. Et puis, il faut évidemment se garder des rapprochements. Ils sont inévitables.
Quel rapprochement ? Avec d'autres lieux ?
Toujours des lieux, oui. Oui, oui.
D'autres îles ?
D'autres îles particulièrement.
Ouais. Enfin, les Antilles, par exemple ?
Ce marché couvert, non. C'est plutôt... évoque plutôt pour moi celui de Papeete. C'est quelque chose contre quoi j'essaie de lutter. En même temps, dans le livre mexicain, Viva, je mentionnais, parce que ça m'avait frappé, à quel point le marché de Guadalajara au Mexique m'évoquait, je ne sais trop pourquoi, déjà celui de Papeete.
On arrive sur la gare routière là avec... tous les cars qui partent du centre-ville de Saint-Pierre. Et puis une vendeuse de piments qui est juste derrière nous, des piments oiseaux. Ça doit être pas mal dans un carry ou dans un rougail, par exemple, et un guitariste. Vous écrivez « S'il est souvent agaçant d'observer son père, de retrouver en lui des travers et des manies qu'on sait avoir reçues, mais qu'on aurait préféré ne pas, il est fascinant d'observer son fils, ses détails qu'on reconnaît et d'autres inconnus. » Car vous êtes parti avec votre fils.
Oui, là, c'est particulier. Enfin, c'est particulier. Le livre précédent était le sixième, donc c'était celui du milieu. C'est un plan qui est prévu depuis plus de 20 ans, ces deux tours du monde. Et je savais que celui du milieu serait le français et qu'il serait davantage autobiographique. Et donc, j'ai écrit ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, etc. Mon fils l'a lu. Et puis, après avoir lu Tabataba, nous en avons parlé. Et moi, j'en arrivais à écrire l'Amazonien. Il n'avait pas le choix de la destination, puisque de toute façon, moi, j'en arrivais à écrire l'Amazonien. Mais enfin, je lui ai proposé que nous fassions le dernier voyage ensemble de l'Atlantique au Pacifique. Et donc, ce livre est devenu, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, enfin, le sujet principal en est devenu ces histoires de filiation, de père-fils, qui me fascinent, oui.
On a des nèfles juste à côté, des bananes, de la coriandre... De gros avocats, ça vous donne envie, ça? Vous êtes cuisinier?
Oui. Ah oui, bien sûr, absolument.
Ah, vous cuisinez, vous?
Ah oui, j'aime beaucoup cuisiner. Mais alors là, voilà, le séjour est trop bref pour disposer d'une cuisine, mais bien sûr. Puis d'abord, c'est très rageant d'être au marché et de ne rien...
Devant, oui, c'est vrai.
Oui, et de ne rien pouvoir acheter,
c'est
parce
vrai,
que...
On a envie d'acheter des piments, voilà. Les piments, on peut les ramener.
À part des sandalettes, ouais.
Bon, il y a dans Amazonia cette notion de découverte du monde, mais surtout cette notion d'étape. C'est très important, la notion d'étape. Ça tombe bien parce qu'on est à la gare routière là, de Saint-Pierre. Il y a cette notion comme ça, quand vous allez d'un endroit à l'autre dans Amazonia, quand vous fréquentez certaines villes, des villes fantasmées comme Quito en Équateur, les pauses autour d'un verre d'alcool fort. Tout ça, ce sont des étapes qui construisent une vie.
Oui, en tout cas, c'est la mienne. Ces livres-là sont ainsi faits. Il y a eu de l'isolement, hein, bien sûr, mais le fait de voyager à deux, il y a eu moins de cet ennui. Mais je compte beaucoup sur l'ennui. L'ennui fécond, il n'est pas toujours fécond, l'ennui, mais il faut beaucoup de temps passe d'être seul, de lire, de tourner en rond, de fumer beaucoup de cigarettes, de prendre des verres. Et puis, peu à peu... des idées viennent à condition d'avoir un carnet à portée de la main et de ne pas les laisser s'enfuir.
On a l'impression que vous vous sentez bien partout.
Oui, mais c'est le cas aussi dans, comment appeler ça, le savoir. C'est bien prétentieux, mais enfin je sais que je ne pourrais pas être un spécialiste, enfin, dans les domaines. Je suis fasciné par les sciences, la philosophie, la littérature. Et de la même façon, je n'ai
attention,
pas d'endroit...
Patrick, c'est une voiture, on va traverser vite fait, mais il y a un gros bus derrière.
Je n'ai pas d'endroit...
Un bus rose, d'ailleurs, ils sont roses, les bus, ici. Allez-y, pardon.
Privilégié, ouais. sur le globe.
Ah oui, aucun endroit privilégié.
Non, j'ai une curiosité, je me sens effectivement très très bien partout. C'est magnifique d'être à La Réunion. Je pars en Inde, là encore, si tout va bien, pour un petit chapitre. Mais parfois, je séjourne très longuement. Tous les lieux de la planète sont fascinants.
Bon, merci beaucoup, Patrick Deville. On a entendu le son de la Réunion, un certain son de la Réunion urbain. Aujourd'hui avec vous, merci infiniment. Amazonia est paru aux éditions du Seuil. Il vous en reste 5 à écrire pour arriver aux 12 prévus. Il y aura donc forcément un récit sur la Réunion, vous nous l'avez confié. Dans un instant, notre séquence livre de poche pour les petits budgets avec Ali Zamir, Alain Mabankou et une libraire réunionnaise ici à Saint-Pierre au salon du livre Athéna. Avant cela, voici le nouveau titre de Clara Luciani qui interprète Bovary. Merci à vous d'écouter la librairie francophone installée à la Réunion aujourd'hui.
Si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche, j'avoue. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
C'était la chanteuse corse Clara Luciani avec Bovary. Nous sommes sur ce salon du livre Athéna, ici à Saint-Pierre, en front de mer, dans les jardins de la plage, sur l'île de la Réunion. Voici notre séquence livre de poche avec un auteur et une libraire. Bonjour Vanille Poirier.
Bonjour.
Nous sommes au cœur du festival, là, au cœur du salon. Vous êtes libraire dans la librairie Autrement, à Saint-Pierre, une librairie qui existe aussi à Saint-Denis. Et vous avez choisi un coup de cœur.
Oui.
Lequel ?
La nuit des Béguines d'Aline Kinner, paru aux éditions Liana Levy, que j'ai trouvé absolument passionnant. C'est un bel hommage rendu à des personnages injustement oubliés des livres d'histoire. On se rend compte que le féminisme existe depuis longtemps et déjà au Moyen-Âge, il était là.
Et Aline Kinner qui nous a quittés il y a peu de temps.
Malheureusement, oui.
L'année dernière.
C'est ça.
Bon, merci beaucoup pour ce choix. Aline Kinner, c'est chez Liana Levy en poche. Bonjour Ali Zamir.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes écrivain comorien. Les Comores, qui ne sont pas très loin d'ici, entre Madagascar et le continent africain. On vous a connu avec Anguille Souroche en 2016, le récit époustouflant d'une femme qui se noie dans cet océan indien qui est face à nous. L'océan indien qui était le personnage central de votre livre.
Tout à fait, l'océan Indien, le lieu principal de l'action, parce que le personnage principal est en plein océan, elle se noie et elle dit qu'elle ne sait pas nager, donc c'est un récit d'urgence.
Alors, le livre est ici, là devant nous, Anguille Souroche, paru en livre de poche. Il faut lire ce livre absolument, on l'avait déjà dit, on le redit ici à l'Isamir. Qu'est-ce que vous pensez de l'île de la Réunion? Vous étiez là déjà il y a 2 ans, vous aimez ce salon du livre Athéna?
J'aime beaucoup ce salon parce que c'est un très beau salon. Les organisateurs, les réunionniers, ils sont vraiment accueillants et j'espère un très bel avenir à ce salon parce que jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il y a un autre salon qui a l'ampleur de ce salon. C'est un grand salon dans notre région.
Dans les départements d'outre-mer aussi.
D'outre-mer, oui. Et j'espère qu'il demeure ainsi pour qu'il fasse vivre la littérature mondiale.
Merci beaucoup, Alizamir. Merci, Vanille. Elle est partie. Vanille, on vous laisse travailler sous ces tentes blanches en front de mer avec le lagon qui est juste à côté et un public éclectique, à la fois des gens qui vont à la plage et de grands lecteurs. C'est très varié ici, c'est ça le grand plaisir?
Oui, oui. C'est tout le plaisir du métier de libraire surtout.
Merci, Vanille. De la Réunion, nous allons partir en Suisse avec Alain Mabankou en public. C'était pour son livre Les cigognes sont immortelles, son 12e roman qui vient de sortir en poche chez Point. Voici un large extrait de cet entretien pour conclure cette émission.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Alain Mabankou est dans la librairie francophone cette semaine pour son nouveau roman « Les cigognes sont immortelles » paru aux éditions du Seuil. C'est un livre très politique, Alain, qui commence comme un vrai roman. Mais très vite, le roman frôle l'essai sur la politique congolaise en 1977. Le 18 mars, à 14h30, Marianne Gwabi, président et chef de la révolution congolaise, est assassiné. C'est le deuil national, le couvre-feu, les militaires prennent le pouvoir et tout le monde panique, Alain Mabankou.
Oui, je pense que nous étions dans les années 70, au sortir des indépendances. Les États africains étaient heureux d'être indépendants et puis on a assisté à l'installation des dictatures. Mais plus qu'un roman politique, je pense que c'est un roman plutôt sur le courage de la femme africaine. Un seul individu, qui était ma mère, Pauline, qui va chercher une certaine vengeance, puisque dans ce coup d'État, dans cet assassinat, on pense que c'est une histoire qui se passe très loin, mais en réalité, c'est un coup d'État qui a affecté ma propre famille. Donc, je me suis remis dans ma peau lorsque j'avais 11, 12 ans pour essayer d'entendre les silences, les questionnements que j'avais.
Donc, c'est votre histoire aussi, là, alors?
Moi, je pense que c'est le roman dans lequel la réalité a plus dépassé la fiction. Mais c'est une chronologie de l'enfance. Ouais. Tout se mélange. Il parle à la fois de la guerre de Biafra, de Bob Denard, de la coiffe de Jacques Chirac, de la maladie de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing qui subit aussi les conséquences de la trahison de Jacques Chirac. Donc c'est une
Pompidou, politique. C'est drôle parce qu'il y a une petite histoire autour de Pompidou. Vous dites qu'on aimait bien son nom. Penser au surnom d'un bébé qui boit son biberon tranquillement.
Voilà, c'est ce qui expliquait l'enfant dit, le nom Pompidou, il est très beau parce qu'il faut penser à un bébé qui boit son biberon tranquillement. Oui. Et quand on avait reçu Pompidou au Congo, parce que j'étais encore un pionnier de la révolution, on nous avait habillé en kaki, j'avais le foulard rouge et nous chantions « Tonton Pompidou est arrivé, nous n'aurons plus faim ». Donc on pensait que Monsieur Pompidou allait nous donner à manger, mais il est arrivé et il nous a donné des fleurs. Ouais. Depuis ce temps, tous les Congolais sont fâchés contre les fleurs. On n'aime pas les fleurs parce que Pompidou, chaque fois qu'il venait au Congo, donnait les fleurs aux enfants de la Révolution alors que nous attendions de la nourriture.
Alors vous racontez tout ça, Alain Mabankou, avec cette critique comme ça de la politique de votre pays. Et effectivement, on célèbre les dirigeants étrangers en visite à l'époque, comme Ceausescu.
Que j'ai rencontré.
Que vous rencontrez, vous chantez en son honneur. Il y a des choses comme ça et on entend des chants russes aussi. On écoute des chants russes à l'époque.
Parce que nous marchions vraiment à la cadence soviétique. L'Union soviétique représentait pour les pays africains la bouée de sauvetage après tout ce que l'Europe occidentale, tout ce que la France, la Belgique et autres avaient fait sur le continent. On pensait que les Russes nous apportaient un peu quelque chose à brouter qui serait plus sucré que la colonisation très amère. Donc on a dansé, voilà, les Russes sont arrivés, mais on a vu qu'il y avait plutôt une idéologie. On nous a transformés en moutons de Panurge.
Et votre personnage se moque dans votre livre de ces Européens qui sont incapables de garder un président à vie.
Voilà. Donc, parce que le narrateur, il comprend pas.
Il comprend pas ça. Oui.
Mais les Européens, ils ont du temps à perdre. Pourquoi ils gardent pas un président? Il faut des élections. Ils perdent le temps. C'est le questionnement que j'avais, puisque moi, j'ai grandi dans un pays où le président était envoyé par Dieu. Normalement, un président ne meurt pas. Et nous, on est là, on voit des élections en Europe, en France. On s'est dit, mais pourquoi le maire de Paris veut être président à la place du président de la République? On laisse tranquillement le président faire jusqu'à la mort. Voilà.
Il y a trois libraires qui ont lu votre roman, Alain Mabankou, la Belgique, le Canada et la Suisse. Par qui commence-t-on?
Ils peuvent commencer au même moment.
Oui, bah, tout ça en même temps, ça va être compliqué.
La Belgique, hein. la Belgique Canada, allez. Suisse.
Oui.
Bon, on va aller très loin, on va aller au Canada.
Allons-y. Alors, Jérémy Lagniel, c'est à vous.
Le talent de Mabankou, hein, il réside dans le glissement dans ce livre-là. C'est comment, en quelques centaines de pages, la naïveté assumée de Michel glisse vers un regard lucide sur l'histoire, avec un grand H, sur le passé colonial africain. C'est simplement un tour de force. C'est un roman brillant. À mon avis, ça surpasse les Lumières de Pointe-Noire que j'avais adorées. À vrai dire, je crois qu'il s'agit du meilleur roman de Mabankou, tout simplement.
Mais dis donc, Dominique Bressot pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Alors moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé ce livre. En fait, l'originalité, vous gardez toujours le même style, toujours le même point de vue, celui d'un enfant d'une dizaine d'années. Et en fait, pour les esprits chagrins, je pense qu'il y a, même si c'est très humoristique, ça va paraître lassant. Mais moi, au contraire, je trouve que la puissance d'évocation, elle est vraiment renforcée. Et au final, ça donne un livre dont l'humour, ça peut faire mal, mais il marque très durablement.
Il y a beaucoup de choses dans ce livre, Alain Mabankou, dont l'importance de l'arbre à palabre et surtout la radio que l'on écoute attentivement, la radio nationale qui n'est pas toujours très fiable au Congo. Et puis, la radio ne doit pas mentir. Alors parfois, on va chez le voisin pour vérifier si la radio a dit la même chose.
Voilà. C'est mon père qui le disait. Parce qu'on entend une information, on dit, écoutez, le président Pompidou a été hospitalisé. Mon père dit, c'est pas possible. Va chez la famille Malonga pour aller demander s'ils ont entendu. Et puis moi, je vais là-bas, bonjour. Papa m'a demandé de savoir si Pompidou est à l'hôpital. Oui, 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 on a entendu. Et comme une voix ne suffisait pas, on m'envoyait encore chez un autre voisin. Donc la radio était essentielle pour nous, surtout quand c'était la radio congolaise qui l'avait dit.
Les cigognes sont immortelles aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Alain Mabankou d'être fidèle à la librairie francophone. Ce roman donc est à lire absolument, vous l'avez entendu, nos libraires ont adoré. Merci Alain, merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on termine cette émission avec un coup de pouce à un collectif haïtien. Voici la Koumizik.
Mwen mè pridans Gwa bout lirik, fraz poetik Mwen mè mizi Respect, sagesse, similité Se sak boussol mwen Mwen mè tout sakret pozitif Mwen mè jwen vibe mwen Bon dje bokè ou pou remè Kite l remè Lese ou ale Kite ou remè, pap tope ou chimè Nou se tayen Nou se pochè Nou se pochè Mèm jèm remè ou karè
Les Haïtiens de Lako Musique avec Ren Men, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Guillaume Roux. Merci à toute l'équipe du Salon du Livre Athéna, ici à Saint-Pierre, à La Réunion. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguay et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage culturel francophone. Bonne semaine, bon week-end à tous. À bientôt. Salut.